cours d'histoire. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès.
Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle série de nos cours d'histoire, une nouvelle série que j'ai souhaité consacrer au maréchal Pétain, une figure extrêmement complexe, comme nous allons le voir au cours des trois prochaines émissions. Et pour nous parler du maréchal Pétain, eh bien, j'ai l'honneur de recevoir au micro de Storia Voce une des meilleures spécialistes du sujet, Bénédicte Verger-Chaignon. Bénédicte Verger-Chaignon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, le maréchal Pétain, c'est évidemment le programme de troisième et le programme de terminale. Vous êtes spécialiste, Bénédicte, de la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, mais surtout l'ouvrage que j'ai utilisé pour réaliser cette émission, la biographie qui fait autorité, donc Pétain, qui vient d'être réédité dans la collection de poche des éditions Tempus, mais c'est plus vraiment un livre de poche parce qu'on ne peut vraiment pas le mettre dans la poche. Il fait près de 1200-1300 pages, mais il a le mérite de se lire extrêmement facilement et donc d'aborder toute la complexité de ce personnage. Bénédicte Verger-Chaignon, on est frappé en ouvrant votre livre sur le sujet de voir que l'on sait finalement assez peu de choses sur Pétain avant 14.
Effectivement, alors que sa vie avant 1914, elle est déjà très longue, puisqu'il est né en 1856. On est au début du Second Empire. Il est né la même année que Arthur Rimbaud. Et en fait, en 1914, il a déjà 58 ans. Alors, ce qu'on sait quand même très bien sur ces années de sa vie, c'est tout ce qui concerne sa carrière militaire, parce que ça, c'est documenté par des archives. On sait beaucoup moins de choses sur sa vie personnelle, parce qu'il a fait le ménage dans ses propres archives, y compris dans sa correspondance avec sa famille, qui aurait été enterré par précaution en 1940, puis perdu. Donc, peut-être qu'après tout, on aura la chance de la voir ressurgir.
Mais il n'y a pas une volonté, chez lui, il n'y a pas une volonté forcément de cacher, c'est plus son tempérament à vous lire, où on a l'impression qu'il ne souhaite pas se mettre en avant. Ce n'est pas un personnage qui veut avoir et qui apparaît comme un voulant avoir un rôle de premier plan.
Alors, il y a effectivement quelque chose de son tempérament qui est hérité de son enfance. Sa mère est morte quand il avait 3 ans. Son père s'est remarié et il a toujours été très malvenu dans la nouvelle famille de son père. Et il dit lui-même qu'il en a gardé un caractère extrêmement réservé. Et en tout cas, il aime la discrétion à son propos. Et il s'en est rendu compte en 1916, quand au moment de la bataille de Verdun, il est soudain devenu, mais quand je dis soudain, c'est presque du jour au lendemain, une célébrité mondiale. Et donc, à ce moment-là, il a fait l'objet de toutes sortes d'articles qu'on appellerait people maintenant. Et il a recommandé à ce moment-là à sa famille et à ses proches de ne pas se répandre auprès des journalistes.
Il voulait au fond garder une vie privée.
Il voulait absolument garder une vie privée. Il trouvait que ce n'était pas digne, de s'exposer. Bon, surtout que un certain nombre des articles comportaient les idioties que vous pouvez imaginer.
Alors, nous allons faire 3 émissions. Hein, je l'ai dit en introduction. Une première sur justement le Pétain avant 14 jusqu'à 1918. Donc, nous allons inclure la guerre dans cette première émission, la Grande Guerre. Puis ensuite, celui qui est peu connu d'ailleurs, le Pétain de l'entre-deux-guerres, jusqu'à la défaite de 40, et enfin une dernière émission, bien évidemment, sur la période qui ira, on va dire, de Montoire jusqu'au fond son isolement et son jugement. Donc vous avez parlé de ses origines familiales, peut-être quelques mots sur la défaite de 1870. Il a été marqué, comme toute sa génération, par cette défaite.
Absolument, il a 14 ans, il habite dans le Pas-de-Calais. Les Prussiens sont passés très près et il est particulièrement marqué par la défaite de 1870 et il choisit pour cela d'embrasser une carrière militaire à la fin de son adolescence et aussi pour des raisons plus pratiques qui sont de prendre son indépendance vis-à-vis de sa famille. Et donc c'est le choix de toute une vie, le choix d'une génération, c'est-à-dire la revanche, récupérer l'Alsace-Lorraine. Et donc il entre à Saint-Cyr à la fin des années 1870 et il va mener comme ça une carrière très classique. Alors je sais qu'on a l'habitude de dire « Ah, c'est étonnant, il n'était que colonel en 1914 ».
Vous parlez d'un avancement anormalement lent, une carrière sans éclat, mais régulière.
Mais régulière, et si on compare au tableau d'avancement des officiers de sa génération, ça n'est pas moins bien que la plupart d'entre eux. En plus, la particularité de sa carrière, qui est sans doute méconnue, c'est qu'il a été beaucoup enseignant dans des écoles militaires. Et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser peut-être, il est aussi un homme d'études. C'est pas un intellectuel, c'est pas ce que je veux dire, je veux pas faire de similitude par exemple avec le général de Gaulle, mais c'est quelqu'un qui aime lire et réfléchir sur les questions militaires.
Il a une pensée militaire originale parce qu'il se situe dans un contexte particulier
de l'évolution des techniques. Son originalité avant 1914, c'est de considérer que le feu tue et que donc l'infanterie est très exposée et qu'il faut l'utiliser de manière intelligente pour que tous les soldats ne soient pas tués avant la fin de la bataille.
Intelligente, c'est-à-dire prudemment ?
Prudemment et de façon très préparée. C'est un homme très perfectionniste. Voilà. C'est la particularité de son enseignement et qui s'accompagne, je dirais, d'une certaine liberté de ton et d'esprit par rapport à sa hiérarchie.
Vous écrivez de lui, il avait une... Enfin, non, c'est pas vous qui écrivez sur Pétain, là en l'occurrence c'est le général Laure en 1904. Donc Pétain, c'est dans une feuille d'évaluation, il a une fermeté de caractère et d'idées qui lui permet de n'être l'esclave d'aucun milieu. Il a un tempérament assez... indépendant.
Oui, tout à fait. Et ce n'est pas du tout quelqu'un, vous voyez, qui va se répandre en relations sociales ou en réseau pour promouvoir sa carrière. Ce qui est assez amusant, c'est que, à l'inverse, quand lui sera en position, je dirais, de pistonner et de faire valoir des avancements, il s'y pliera toujours avec énormément de bonne volonté, alors que lui n'était pas du tout dans la brigue quand il était en situation inférieure.
Alors j'ai quelques mots là pour le coup qui sont de votre plume. Un homme travailleur, farouchement honnête, indépendant, froid, voire un peu un but de son rang. Quelle que soit sa réserve, soigneusement cultivée, Pétain est un homme sociable qui a des amis et qui se montre fidèle et prévenant.
Oui, c'est un homme qui cultive les amitiés. Il est un bon ami. Par contre, je dirais qu'il n'est pas un bon amant ou un bon amoureux. Il est fondamentalement infidèle, persuadé de l'infidélité des autres. Il ne s'est pas marié. Bon, d'abord, je dirais pour des raisons matérielles et ensuite par prudence. Et la chose amusante, c'est qu'il disait qu'il aurait aimé être veuf avec des enfants.
Alors, je disais au départ que on savait peu de choses sur la période avant la Grande Guerre. Ce qu'il y a d'incroyable dans votre ouvrage, c'est que donc cette période d'avant-guerre constitue une petite partie de cet ouvrage, et puis tout à coup, il y a une forme d'accélération de sa carrière dès on a envie de dire dès les premiers mois de la Grande Guerre, mais oui, c'est pas
dès les premières semaines. Absolument. C'est-à-dire que nous passons d'un colonel ordinaire à quelqu'un qui va devenir général, alors de brigade, de division, d'armée, de corps d'armée, voilà, en l'espace de quelques semaines. Ses amis diront en riant qu'ils n'ont même pas le temps de lui écrire pour le féliciter, qu'il est déjà passé au grade supérieur. Et cette promotion, il la doit aux circonstances extraordinaires du début de la Première Guerre mondiale. D'une part, bon, la valse des généraux jugés défaillants par le pouvoir politique, et aussi la retraite, puisqu'il s'est porté avec sa troupe en Belgique et il va devoir retraiter jusqu'à la Marne, pour la fameuse bataille de la Marne, et il va se singulariser par sa capacité à réussir la retraite de ses troupes. Et c'est ça qui va lui valoir ces promotions si rapides et si remarquables du début de la guerre.
Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il acquiert une réputation d'homme proche de ses soldats? On sait que pendant la Deuxième Guerre mondiale, lors de la publication d'outils de propagande, on voyait le maréchal Pétain proche des hommes et proche de ses soldats. C'est une réputation usurpée ou il s'agit d'une réalité?
Alors, c'est une réputation plus tardive. Elle va dater essentiellement de 1917. En fait, et de sa gestion des mutineries. Mais avant Christophe, on peut pas faire l'économie de Verdun. Quand même, qui se situe en 1916. Et c'est l'autre épisode décisif de la vie du désormais général Pétain. Il se trouve en février 1916, quand commence la bataille de Verdun, qu'il est disponible. Et donc c'est pour ça que c'est lui qu'on envoie à Verdun, avec le but d'essayer de stopper l'attaque de l'armée allemande. Et il va y avoir une espèce de phénomène extraordinaire de cristallisation autour de lui. Il va devenir immédiatement l'incarnation même de la défense de Verdun. Verdun étant assimilé à la bataille même de la France et de l'armée française. Et je l'ai dit tout à l'heure, mais en l'espace de quelques jours, il va devenir vraiment une célébrité mondiale. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'au début, les journaux n'ont pas de photos de lui. Et donc, il y a des dessins approximatifs, voire la photo d'autres généraux qu'on a confondus avec lui. Et c'est de ce moment-là que date son énorme notoriété. Et comme vous le savez, sans doute, enfin, je pense que tout le monde sait que son nom est associé à Verdun parce que il est l'inventeur avec son état-major d'un certain nombre de très bonnes idées, la voie sacrée, la noria pour ravitailler le front, le fait que les unités qui subissent les horreurs du front à Verdun sont régulièrement relevées. Donc ça déjà, c'est quelque chose qui va lui attirer la sympathie des combattants. Il est l'inventeur, ce qui est moins connu, de l'importance à apporter à l'aviation d'observation pour surveiller l'ennemi pendant la bataille, ce qui est assez nouveau, hein, bien entendu, à cette époque-là. Et donc, c'est aussi le moment où il va apparaître, surtout aux yeux du grand état-major, comme un défenseur plutôt que comme un attaquant ou un conquérant.
Donc il s'agit de préserver. Est-ce que Bon, il va y avoir des détracteurs, bien évidemment, du maréchal Pétain. Des détracteurs ont souhaité réévaluer son rôle en le minimisant.
Oui, absolument. Il y a, à cause de ce qui s'est passé par la suite, il a paru important d'aller voir qui avait tenu un rôle aussi important, voire plus important que lui, dans alors ce qu'on a appelé peut-être de façon un peu abusive la victoire de Verdun, disons la non-défaite à Verdun, comme après tout le général de Castelnau ou les successeurs de Pétain, Nivelle et Mangin. Mais néanmoins, ça me paraît impossible de parler de Verdun sans évoquer Pétain, ne serait-ce que parce que pour les contemporains, c'est pratiquement synonyme. Voilà.
Et donc c'est absolument pas usurpé.
Non, ce n'est pas usurpé, même si bien entendu, je veux dire, aucun général ne fait jamais tout tout seul. Son état-major a eu les bonnes idées aussi, mais il a eu l'intelligence de suivre son état-major.
Quelles étaient ses relations avec Joffre ?
Alors des relations difficiles, puisque Joffre le trouvait trop défensif. Et trop gourmand aussi en matériel, en munitions et en volonté de relever justement ses troupes. Alors que Joffre, lui, avait en vue d'autres offensives, puisque vous savez très bien que le haut état-major français n'a cessé entre 1914 et 1916 d'espérer percer le front. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'en 1915, Pétain a été le seul et le premier général français qui a réussi à percer le front allemand en Artois. Et ce succès non suivi d'effet a démontré que ça ne pouvait pas marcher. C'est-à-dire qu'en fait, on réussissait une percée, mais il aurait fallu apporter tellement d'hommes et de matériel ensuite pour profiter de la brèche ouverte, que ça ne pouvait pas marcher. En tout cas, le général Pétain, lui, en a tiré la leçon.
Est-ce que on peut le qualifier d'homme providentiel ?
En tout cas, c'est vraiment comme ça qu'il est dépeint à ce moment-là.
Dans les journaux ?
Dans les journaux.
Et dans le monde entier.
Comme vraiment choisi, amené par la Providence pour la bataille de l'armée française à Verdun. Après, je ne pense pas que lui a la folie ou la présomption de se prendre pour un élu à ce moment-là, parce que justement, il est quelqu'un peut-être de trop cynique et de trop réservé pour se prendre aux illusions d'autrui.
Réservé ou sobriété ?
Oui, une certaine sobriété, une forme d'intelligence que on peut quand même lui reconnaître, et puis beaucoup de méfiance. Beaucoup de méfiance. Je pense que l'expérience de 1914 et du limogeage des généraux par le pouvoir public lui a appris à rester toujours très méfiant à l'égard du pouvoir politique.
Comment se passent les deux dernières années de guerre pour lui? Alors, après l'apogée de Verdun.
Alors, l'apogée de Verdun est suivi d'un second apogée. En 1917, il est nommé commandant en chef des armées françaises sur le front de l'Ouest, au moment des mutineries du printemps 1917. Et là, il va à la fois gérer les mutineries par la répression et aussi par des efforts pour ménager les soldats. En effet, il va les traiter comme les combattants professionnels qu'ils sont devenus après toutes ces années de guerre. C'est très connu, mais vous savez, en essayant d'améliorer l'ordinaire,
leur
voilà, de leur permettre de profiter de leur permission, et aussi en passant une sorte de contrat avec eux, c'est-à-dire que on ne risquera leur vie que quand ça en vaudra la peine. C'est-à-dire pour des offensives bien planifiées, limitées, et qui servent à quelque chose. Et donc, son propos à ce moment-là, ce sera de dire « j'attends les chars et les Américains ». En fait, c'est à ce moment-là qu'il acquiert sa réputation de chef très humain, parce qu'il est ménager de la vie des hommes, mais il ne faut pas voir là des raisons sentimentales ou humanitaires. Mmh. C'est vraiment de l'économie bien pensée. Il est persuadé que il n'y aura pas de victoire s'il ne reste plus d'armée française. Et il ne restera pas d'armée française si tout le monde est tué. Voilà, c'est aussi basique que ça. Mmh. Voilà, hein, il ne faut pas du tout y voir des considérations morales. C'est vraiment
une économie de guerre.
Mmh. Tout à fait.
Est-ce que on peut prendre date avec la troisième émission que nous allons enregistrer ensemble sur le Pétain de la Deuxième Guerre mondiale? Est-ce qu'il y a deux Pétains ou au contraire cette volonté de défendre, de s'engager, qu'à partir du moment où on est sûr de son fait, il y a aussi un côté vous montrer un peu pessimiste chez lui, chez ce personnage.
Oui, tout à fait pessimiste et méfiant.
Est-ce que du coup le Pétain des années 1916, 17, 18 est le même que le Pétain de 40 qui préfère?
Oui, il est vraiment le père du Pétain de 40, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que ses conceptions, ses idées de 1940, il les a héritées de sa pratique de 1916-1918. Mmh. Donc, par exemple, l'idée que la France pourrait disparaître physiquement, c'est quelque chose qu'il a acquis à cause de l'occupation des territoires du nord de la France et de la disparition de générations d'hommes adultes pendant les combats. D'autre part, l'idée que le moral de la population civile est le point faible en temps de guerre. C'est quelque chose qu'il s'est forgé en 1917. L'idée aussi plus personnelle, que c'est lui le recours, lui à qui on s'adresse quand tout va mal. Et puis, très prosaïquement, son nom de vainqueur de Verdun, qui va peser très lourdement en 1940 dans le ralliement de l'opinion publique française, eh bien, vient non pas de 1916, mais 1917, quand est venu le moment de le récompenser et de le remercier pour sa gestion des mutineries de 1917. Il était difficile au pouvoir politique de le distinguer pour la répression ou l'amélioration de l'ordinaire. Donc, celui qu'on avait appelé le défenseur ou le sauveur de Verdun auparavant a été dès lors désigné comme le vainqueur de Verdun et distingué pour ça sur le front des troupes.
Eh bien, merci beaucoup, Bénédicte Vergé-Chaignon. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour le deuxième volet de cette série de nos cours d'histoire, donc consacrée au maréchal Pétain, qui est au programme de troisième, mais aussi au programme de terminale. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.